je voulais vraiment remercier mes collègues de Rennes, notamment Patricia, de m'avoir invité parce que je viens de loin. Et dès qu'elle m'a proposé de venir, j'ai tout de suite accepté parce que je trouve que c'est vraiment une excellente idée que la philosophie puisse s'adresser directement à vous, quoi, en dehors de ce système scolaire qui est quand même bien mal en point. En ce qui concerne la bibliographie, Patricia vous a... Moi, j'ai écrit un ou deux livres, mais ce ne sont pas les livres que j'ai écrits qui importent. Ce qui compte, ce sont beaucoup plus les livres de Georges Dumézil, qui sont absolument passionnants et qui ne sont pas lus. Et dans la petite bibliographie que je vous ai proposée, ce sont des livres de poche que je vous ai proposés, qui sont tout à fait accessibles et qui peuvent vous mettre en contact direct avec l'œuvre d'un génie méconnu, quoi, hein, un génie oublié. Et donc, voilà, je vais essayer de vous en parler. Je voudrais souligner juste aussi une ou deux difficultés. Alors, premièrement, il y a une première difficulté, comment dirais-je, c'est que je vais vous parler dans le cadre d'ateliers philosophiques de quelqu'un qui n'est pas un philosophe, mais qui était un linguiste, un historien, un mythologue, quelqu'un qui maîtrisait une quarantaine de langues, mais qui n'était pas du tout philosophe et qui avait même un peu de méfiance à l'égard de la philosophie. Alors, il y aura toute une première partie, notamment aujourd'hui, où je vais vous présenter, une introduction objective à l'œuvre, et progressivement on ira vers la philosophie. Mais aujourd'hui, si vous voulez, avant d'interpréter philosophiquement une œuvre, il faut d'abord la présenter, quoi. Et aujourd'hui, je vais essayer de la présenter. Et alors, par ailleurs, donc, cet historien ou ce linguiste, enfin ce mythologue dont je vais vous parler, était extrêmement érudit. Et je pense que si on ne le lit plus, c'est en grande partie à cause de cette érudition. Donc je vais essayer aujourd'hui de vous présenter, de vous faire une introduction, une introduction à l'œuvre de Dumézil, voilà. Et puis vous présenter donc c'est la grande découverte, ce qu'on appelait l'idéologie trifonctionnelle ou l'idéologie tripartie, qui est propre aux peuples de langues indo-européennes. Et donc, je commence alors une introduction, une brève introduction où je développerai 5 points. Donc, Dumézil, alors je vous présente peut-être la bibliographie rapidement. Georges Dumézil est né en 1898. Ce siècle avait moins 2 ans, comme il se plaisait à le dire. Et il est mort en octobre 1986, il y a 24 ans à peu près. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il a commencé à étudier les mythes dès l'âge de 7-8 ans, à partir d'un livre qu'on lui avait donné, enfin un livre sur les exploits et qu'il a terminé à 86 ans. Donc on peut dire que c'est quelqu'un qui a consacré quasiment 80 années de sa vie à l'étude de la mythologie, et avec une discrétion et une force de pensée tout à fait remarquable. Donc, je vous donne quelques éléments bibliographiques. Il est né donc en 1898. Il a fait des études secondaires dans différents lycées, et il a été reçu premier à l'école normale supérieure en 1916 avec une note de 20 en littérature. Et je me permets de vous dire ça d'ailleurs parce que ce qui m'a beaucoup attiré quand j'ai travaillé sur cette œuvre-là, c'est que c'est quelqu'un qui est non seulement un savant, mais qui a également le talent d'un écrivain. Et il y a du Voltaire dans l'écriture, si vous voulez. Alors, par ailleurs, et ça aussi c'est un élément très important, il a fait la guerre, la Grande Guerre, dans les tranchées de Verdun, de 1917 à 1918. Et il a vu là plusieurs de ses amis, de ses camarades qui étaient très jeunes, mourir. Et il le disait lui-même, auparavant, il ne connaissait la guerre que dans les récits d'Homère ou de Tite-Live. Et là, il a vu concrètement la guerre, et comme il le dit, il s'est ouvert à l'humanité. Ça a été une des grandes transformations de sa vie. Alors, après, Dumézil a passé une agrégation de lettres classiques, et il a enseigné un peu dans l'enseignement secondaire, mais ça ne lui plaisait pas. Visiblement, ça ne lui plaisait pas et ça ne marchait pas trop, puis il était trop doué pour ça, quoi. Et donc, il a soutenu une thèse en 1924 sur le festin d'immortalité, c'est-à-dire sur le rôle du nectar et de l'ambroisie dans les différents mythes. Et il a ensuite travaillé à l'étranger. Il fait partie, un peu comme Claude Lévi-Strauss, de ces grands intellectuels qui n'ont pas travaillé dans le cadre de l'université française, mais qui ont travaillé à l'étranger. Il a travaillé d'abord à Varsovie, Et puis à un endroit où il s'est beaucoup plu, en Turquie, à Istanbul, hein, et enfin à l'université d'Uppsala en Suède, où plus tard Michel Foucault lui succédera. Alors il est rentré en France à l'âge de 37 ans, et il a pu alors à ce moment-là trouver un poste, il a trouvé un poste à l'École pratique des hautes études, dans une chaire donc d'études comparatives de religion des peuples européens. Et surtout, à partir de 1949, hein, il a été élu au Collège de France avec une chaire de civilisation des peuples indo-européens. Chaire qui a été ouverte pour lui, et il a travaillé jusqu'en 1968. Il a par ailleurs était membre de l'Académie française. Il avait de très grandes distinctions honorifiques. Et quand il est parti en retraite, donc à 70 ans, hein, ça, il était en avance, si j'ose dire, hein, quand il est parti en retraite à 70 ans, il est allé enseigner aux États-Unis. Et il me disait, parce que je l'ai connu dans la dernière année de sa vie, il me disait qu'il avait beaucoup apprécié la liberté que l'on a aux États-Unis, la liberté individuelle, la capacité de pouvoir faire des travaux approfondis, liberté qu'il n'avait pas toujours connue en France. Alors, par ailleurs aussi, juste un autre élément, donc il était professeur au Collège de France, et ça laissait des grandes vacances, et il utilisait ces grandes vacances pour aller étudier les langues des peuples du Caucase. Il avait beaucoup aimé la Turquie, il aimait beaucoup ces régions-là, et il a participé au sauvetage d'une langue, alors je la prononce sans doute mal, hein, qui s'appelle l'oubik, O-U-B-I, alors attendez, il ne faut pas que je fasse de faute, hein, ou O-U-B-I-K-H, qui est une langue qu'il a réussi à sauver. Il n'y avait plus qu'un homme qui la parlait. Il a réussi à le faire venir à Paris. Et puis ils ont construit une grammaire et un dictionnaire, quoi. Et il était très fier de ça. Alors c'est une langue d'ailleurs tout à fait particulière, je crois, parce qu'il y a 80 consonnes et 3 voyelles. C'est une langue quasiment imprononçable. Mais c'était quelqu'un qui était très amoureux des langues. Et d'ailleurs, un de ses principaux élèves et disciples, c'est Claude Agege. Hein, vous savez, le très grand linguiste, hein, qui a été beaucoup inspiré par lui. Hein. Alors, voilà, donc, pour les éléments biographiques. Hein. Alors, en ce qui concerne, donc, je reprends un peu cette introduction, hein, je voudrais souligner, donc, le paradoxe de cette œuvre, hein. D'abord, donc c'est une œuvre. Alors moi, je suis très étonné parce que quand j'ai travaillé dessus, il y a maintenant une vingtaine d'années, hein, je ne m'attendais pas à ce que cette œuvre tombe à ce point dans l'oubli. Vraiment, c'était de son vivant, à la fin de sa vie, Dumézil était connu. Bernard Pivot lui a consacré un entretien 3 mois après sa mort. Hein. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, vous savez, pour les vacances de Noël, il y a des coffrets en cadeau. Hein. Et il y a notamment, je crois qu'il y a un coffret avec les grands entretiens de Bernard Pivot. Et parmi les 10 entretiens, il y a notamment celui de Georges Dumézil, parce qu'il était très impressionné par la personnalité. Donc, dans les 10 dernières années de sa vie, il avait une reconnaissance, dont il était très heureux d'ailleurs. Hein. Il aimait que des journalistes viennent le voir, il aimait pouvoir, non pas vulgariser, mais transmettre, hein, le travail de toute une vie. Et après sa mort, il est tombé dans l'oubli. Pourquoi, je ne sais pas, il y a des mystères tout à fait étranges, hein, comme ça. Alors, donc, dans l'introduction, je voudrais souligner plusieurs points. Je vais devoir aller très vite. Est-ce que vous m'entendez au moins? Est-ce que j'ai réussi à apprivoiser? Pas vraiment, non. Je ne sais vraiment pas comment faire. Et là, vous m'entendez mieux. Il faut vraiment s'approcher. Excusez-moi, je n'ai jamais eu à parler dans ces choses-là et j'ai du mal à les apprivoiser. Je vous présente mes excuses. Hein. Je vais m'approcher. Donc, je voudrais souligner dans une introduction 5 points, s'il vous plaît. Hein. Alors, le premier point que je voudrais souligner, c'est d'une part alors, ce qu'on peut appeler la modestie d'un savant. Hein. Et j'emploie un peu ces deux termes à dessein parce que la modestie, ce n'est pas forcément très couru chez les intellectuels de nos jours. Et les savants, ce ne sont pas ceux qu'on entend le plus. On entend beaucoup d'intellectuels qui donnent parfois de très grandes généralités, surtout et n'importe quoi. Les savants, on ne les entend pas beaucoup. Donc c'est le premier point que je voudrais souligner, donc c'est cette modestie d'un savant. Alors Dumézil se situe au croisement de trois disciplines. La première discipline, c'est ce qu'on appelait la mythologie comparée, qui était surtout développée en Allemagne d'ailleurs. Les Allemands s'intéressent plus à la mythologie que nous, et dont le fondateur était un certain Franz Bopp, B-O-2-P. Donc Dumézil a repris cette tradition. La seconde discipline, c'est la linguistique. Dumézil était un très grand linguiste, et il était très proche aussi d'un savant dont on ne parle plus beaucoup aussi, qui est également Émile Benveniste. Donc c'est un très grand linguiste, et il maîtrisait, ce n'est pas une plaisanterie, il maîtrisait une quarantaine de langues. Ça ne veut pas dire qu'il les connaissait par cœur, mais il les maîtrisait. Pour vous donner juste un exemple, il a voulu à un moment démontrer que l'idéologie trifonctionnelle ne valait que pour les peuples indo-européens et qu'elle ne fonctionnait pas pour la Bible. Que, si vous voulez, le schéma de pensée de la Bible n'est pas le même que celui des indo-européens. Et pour le démontrer, en 6 mois, il a appris l'hébreu. Ce qui montre à la fois le génie et le sérieux. Quand j'entends parfois des gens qui parlent des religions de nos jours sans même prendre le soin d'apprendre un peu d'hébreu ou un peu d'arabe ou un peu de sanskrit, on est parfois un peu surpris. Donc c'était un très grand linguiste qui aimait les langues. Il lisait des dictionnaires pour se détendre. Il lisait un dictionnaire grec. Un dictionnaire en langue grecque, vous voyez, pour se détendre comme vous ou moi, enfin en tout cas moi, je lirai un roman policier, quoi, c'est pas la même chose. Et puis, donc la troisième discipline, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Dumézil se situe, si vous voulez, dans le domaine de l'histoire des origines, ou de ce qu'on appelle l'ultra-histoire, l'histoire des premiers temps, quoi. Donc il y a ces trois domaines. Donc c'est quelqu'un qui dispose d'une très grande érudition, qui gambade entre les mythes avec l'agilité d'un singe, si je puis me permettre cette expression, et dont l'œuvre a été difficile à lire parce qu'elle était très difficile à vulgariser. Elle a été vulgarisée quand il est mort, par 2 ou 3 personnes. Mais, et puis d'autre part, il y avait un problème, si vous voulez. Comme c'était un savant, dans ses œuvres, il avait tendance à s'adresser à d'autres savants. Et donc on trouve dans ses œuvres des tas de remarques qui s'adressent à des collègues et qui rendent difficile la lecture pour le commun des mortels, comme vous et moi, en tout cas comme moi. Donc c'était quelqu'un d'une exceptionnelle intelligence. Moi, je l'ai connu dans la dernière année de sa vie, je l'ai vu une dizaine de fois, 3 ou 4 heures. Enfin, je le voyais, je crois que c'était le vendredi après-midi, on discutait de 2 à 6 heures ou de 2 à 7 heures. Enfin, c'est lui qui parlait, moi j'écoutais, enfin on discutait, quoi. Et j'étais frappé à la fois par l'intelligence. Et puis vous savez, c'est difficile à dire l'intelligence, mais il y a quelque chose qui passe dans le regard qu'on ne saurait exprimer, une malice, aussi cette malice qu'on trouve aussi à la fin de sa vie quand on est passé de toutes les idéologies et de toutes les choses qui ne servent à rien, quoi. Donc il y avait une très grande intelligence et surtout une très grande modestie, une réelle modestie. Alors, réelle modestie dont d'ailleurs il a été victime. Il a été victime, alors parce que je pense, une des raisons pour laquelle cette œuvre a été oubliée, c'est parce que Georges Dumézil a toujours refusé d'universaliser ce qu'il découvrait. Et à la différence, alors je vous en parlerai, à la différence de celui qui était son ami et qui était plus jeune de lui de 10 ans, à la différence de Claude Lévi-Strauss, il n'avait pas une formation philosophique. Et il se refusait donc à toutes les générations philosophiques. Et il semble qu'en France, on aime beaucoup les grandes généralités philosophiques. Et donc, voilà, ça n'a sans doute pas trouvé le public qui lui était destiné. Alors, bon, voilà, peut-être sur le premier point, parce que je ne veux pas... donc, vous voyez, donc... il est resté, c'était quelqu'un de modeste, donc qui est toujours resté en retrait. Et qui, en plus, aspect tout à fait intéressant, qui n'avait pas de méthode à proprement parler. Il avait une réflexion sur la méthode qu'il se plaisait à répéter. Alors, en jouant un peu sur l'étymologie grecque, vous savez, méthode, ça vient du grec, méta, il y a rhodos, le chemin. Il disait, la méthode, c'est le chemin après qu'on l'ait parcouru. C'est-à-dire, finalement, on ne peut réfléchir sur une méthode qu'a posteriori, après avoir fait un travail. Mais il se refusait à tout emploi d'une méthode a priori, si vous voulez. Donc, alors, sa méthode reposait, au fond, sur l'intuition. Deuxième remarque que je voudrais faire, qui explique aussi un peu la méconnaissance de cet auteur, hein, c'est que Dumézil occupait une place tout à fait à part dans le paysage intellectuel français, pour notamment deux raisons. Hein. Alors, première raison qui est importante, il est un des rares intellectuels français à avoir échappé à l'influence du marxisme. Et alors, maintenant, le marxisme, plus grand monde ne s'en préoccupe, mais dans les années 1950, hein, 1960, c'était vraiment, si j'ose dire, l'idéologie dominante ou la philosophie dominante, comme on voudra. Hein. Et notamment sur un point précis, on verra, hein, Georges Dumézil a développé l'idéologie, alors pour Marx, disons en gros que l'idéologie, enfin chez Marx, hein, l'idéologie désigne l'illusion que se font les philosophes, hein, lorsqu'ils croient que c'est la conscience qui produit des idées. Hein, pour Marx, comment dire, nos idées sont produites par une réalité, par la vie. Hein. Au contraire, pour Georges Dumézil, on verra, l'idéologie est synonyme de philosophie plutôt. L'idéologie n'est pas le reflet d'une structure sociale. Hein. Et elle n'est pas notamment le reflet donc, d'une structure économique et sociale. Et puis, autre différence qui est vraiment très importante, hein, c'est que dans la pensée de Marx, l'idéologie exprime la division d'une société, le conflit d'une société qui est divisée en classes. On verra que pour Dumézil, l'idéologie exprime au contraire l'unité d'une société. Hein. Vous voyez, l'unité d'une société qui, en plus, se développe dans ce qu'on pourrait appeler la longue durée du symbolique, puisqu'elle se développe sur 3-4 000 ans. Hein, Alors, deuxième remarque aussi qui fait que Georges Dumézil n'a pas été reconnu, c'est précisément qu'il était un savant. Et il a été influencé alors par deux personnages qu'on a également oubliés. Hein, d'une part, Marcel Mauss, hein, vous savez, celui qui a écrit l'échange sur le don, qui était le neveu de Durkheim. Alors, ça s'écrit M-A-U-2-S. Marcel Mauss, qui était un génie un peu dilettante, hein, qui a écrit ce livre d'essais sur le don, qui a inspiré notamment Lévi-Strauss et tous les anthropologues du XXe siècle. Hein. Puis d'autre part, il a été influencé par un spécialiste du chinois qui s'appelait Marcel Granet. Marcel Granet, G-R-A-N-E-T, hein, qui était un spécialiste de la mentalité chinoise. Hein. Et à part ceci, il a fait son travail, si vous voulez, en dehors de la démarche du sciences humaines. Et on peut dire que Dumézil est beaucoup plus influencé par l'idéal de la science tel qu'elle a pu animer, par exemple, quelqu'un comme Einstein. Il était très influencé par le modèle de la physique. D'ailleurs, je peux vous donner, c'est plus qu'une anecdote, hein. Je suis allé au Champ Libre l'autre jour et il y a une salle qui c'est la salle Hubert-Curien. Hein, Hubert-Curien était le gendre de Georges Dumézil. Dumézil avait eu deux enfants, hein, une fille qui s'appelait Perrine, qui est devenue agrégée de physique, hein, et un fils, Claude Dumézil, qui est devenu un grand psychanalyste lacanien. Et sa fille a épousé Hubert-Curien. Hein, Hubert-Curien. Et donc, on voit bien, alors d'ailleurs, pas seulement par ces. Et quand il était très jeune, Dumézil avait hésité entre la mythologie et la physique. Il avait été notamment très influencé par un livre de Perrin en 1921 sur l'atome. Et il a beaucoup hésité, c'est un peu le hasard qui l'a amené plus vers la mythologie que vers la physique. Mais au fond, il a un modèle, si vous voulez, il a un modèle de la science, hein, qui est celui des sciences dures. Hein. Le seul modèle de la science pour lui, c'est celui des sciences dures, celui de la physique. L'idée de sciences humaines lui apparaissait pas très rigoureuse en définitive. Hein. Bon. Ce point. Alors vous voyez d'ailleurs, il comparait souvent la mythologie à la physique moderne, hein, et je cite un peu des passages, il dit donc, alors que la physique prolonge notre vision par l'artifice des ultra-microscopes, la mythologie nous permet d'aller un peu plus loin dans la lecture des documents. Donc c'est un savant qui cherche à établir des faits, comme le font les physiciens. Alors, avec cette différence, on verra, c'est que le physicien pratique la méthode expérimentale, alors que le mythologue va utiliser une méthode comparative. Il va comparer les documents, les récits des différents historiens, et à partir de ces différents récits, il va essayer d'établir des structures durables. Mais, encore une fois, c'est le modèle de la science. Donc, cette œuvre-là, alors, C'est la troisième remarque que je voudrais faire. Hein. Donc cette œuvre-là, cette œuvre de Dumézil, n'est pas l'œuvre d'un philosophe, c'est celle d'un savant. Mais c'est néanmoins une œuvre qui appelle à réfléchir, qui donne à penser, hein, au sens d'un don. Hein. Alors, lorsqu'il est mort, un peu de temps avant sa mort, hein, Dumézil voyait son destin avec beaucoup de lucidité. Il prévoyait d'abord une volée de bois vert, comme il disait lui-même. Et je vous en parlerai peut-être, il a reçu la volée de bois vert. Hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'était plus là pour se défendre, il y a ce qu'il appelle le thias des sycophantes, hein, c'est-à-dire tous les gens qui savent dénigrer les autres sans rien construire, qui se sont acharnés sur lui. Il n'était plus là pour répondre. Hein. Et puis, il prévoyait après l'oubli, hein, l'oubli de son œuvre. Et il me semble que, justement, c'est une œuvre qui n'appelle pas l'oubli, hein, parce que c'est une œuvre qui... appelle une réflexion d'ordre philosophique. Une réflexion d'ordre philosophique. Et je vais me permettre de vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il évoque souvent, bien qu'il ne fût pas philosophe, il évoque souvent la philosophie qui peut se dégager des mythes. Alors, je vous donne deux ou trois exemples. Dans un livre consacré à l'histoire romaine, qui s'appelle Tarpeia, T-A-R-P-E-I-A, hein, il évoque la philosophie politique des Romains. Dans un autre passage de Mythes et épopées, alors j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, la grande œuvre de Georges Dumézil, hein, si un jour vous êtes vraiment intéressé par ça, c'est Mythes et épopées. Mythes et épopées, donc c'est une œuvre qui est réunie dans la collection Quarto. Hein. J'ai vu qu'elle était à la bibliothèque des Champs Libres. Et ce sont trois livres qui ont été écrits, je crois, de 1968 à 1975, par là. D'ailleurs, au même moment, c'est tout à fait intéressant, peu de temps après, hein, Claude Lévi-Strauss était en train d'écrire Les Mythologiques, quatre tomes aussi, qui résument sa pensée. Hein, et dans les deux cas, vous avez à peu près 2000 pages de mythologie tout à fait passionnante, quoi. Hein, bon. Alors, donc, dans Mythes et épopées, hein, Georges Dumézil évoque... Je cite un morceau d'épopée indo-européenne illustrant un morceau de philosophie politico-religieuse. Et donc il fait référence à la philosophie. Et alors il ajoute, hein, j'aime beaucoup ce passage-là, il écrit donc « Une œuvre littéraire n'a pas à exposer une théorie. Elle laisse à l'auditeur ou au lecteur le soin de percevoir le dessein providentiel qui a agencé les événements dans l'ordre où elle se présente avec les résultats qu'elle décrit. » En d'autres termes, si vous voulez, une œuvre littéraire, une épopée ou une mythe ou l'œuvre du mythologue, hein, ne développe pas une théorie, mais elle nous invite à penser. Elle présente alors ce que Emmanuel Kant, hein, philosophe de la fin du XVIIIe siècle, appelait des idées esthétiques. Hein. Il appelait ça des idées esthétiques. Alors une idée esthétique, c'est une représentation de l'imagination, dit Kant, hein, qui donne beaucoup à penser sans qu'aucun concept ne puisse lui être assigné. C'est-à-dire, vous voyez, une idée de l'imagination, c'est par exemple si vous lisez Homère, hein, si vous lisez l'Iliade, hein, vous voyez, il y a là des idées de l'imagination qui peuvent donner à réfléchir, qui peuvent donner à penser, mais sans qu'on puisse lui assigner un concept philosophique strict. Hein, et cette œuvre-là a le même, statut. Alors, quatrième remarque que je vais faire, hein, quatrième remarque concerne ce que l'on peut appeler précisément l'anthropologie. L'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme. Hein. Alors, il y a un beau livre que j'ai indiqué dans la courte bibliographie que je vous ai présentée. Il y a un beau livre de Dumézil qui s'appelle « Divertissement sur les dernières paroles de Socrate hein. ». C'est une réflexion assez libre sur les dernières paroles qu'aurait prononcé Socrate, donner un coq à Asclépios, hein, sur les dernières paroles qu'aurait prononcé Socrate avant de mourir. Hein. Et dans ce passage, dans ce livre, alors je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup. Hein. Donc Dumézil, je crois, avait une maison près de Vernon, et vous savez, l'été, donc quand on a une maison de campagne, on peut se mettre dans le jardin à l'ombre quand il fait très chaud, hein, et puis on se met à lire. Et puis il arrive qu'on s'assoupisse. Et puis il arrive qu'on fasse des rêves quand on dort. Hein. Mais c'est ce qui s'est produit. Alors il reprend cette idée-là. Donc il lisait un livre de Lamartine, je crois. Et puis il s'assoupit. Et il décrit alors à un moment ce qu'il appelle un jardin anthropologique. Et tenez, je vous lis le passage parce que je trouve que c'est un très beau passage, à mon avis. Voilà comment il décrit ce jardin anthropologique qui n'est plus de ce monde, hein, qui est de l'autre monde. Hein. Ici, nous gardons nos personnalités, mais non pas nos personnages. Nous n'avons plus d'amour-propre, nous n'avons plus de hier. Notre seul souci est de chercher une vérité, et nous ne sommes pas moins heureux quand elle vient sur le souffle d'un autre que lorsqu'elle sort de nos propres réflexions. Nous parlons un même langage, et j'ai souvent l'impression que nous ne sommes que les cellules indifférenciées d'un grand cerveau. Ah, si les vivants pouvaient s'ajuster en de telles machines! À vrai dire, les dialogues de Platon n'en donnent-ils pas déjà le modèle? Il est dommage que la plupart des philosophes qui sont venus après lui aient préféré tourner en rond, chacun dans sa géniale solitude. Je trouve que c'est un passage absolument admirable de ce que pourrait être la pensée, hein, cette idée que nous serions indifférents au fait que les idées viennent d'un autre cerveau que le nôtre et que nous n'aurions plus d'amour propre, plus de hier, serait... Bon, voilà. Donc, Dumézil montre dans ce passage, il reprend alors l'idée de Platon, il a beaucoup travaillé sur Platon d'ailleurs, hein. Il reprend l'idée selon laquelle, chez Platon, le dialogue est constitutif de la vérité. Il n'y a pas de vérité solitaire chez Platon, on ne pense pas seul, hein. On atteint la vérité qu'à plusieurs. Et alors, Dumézil a essayé, lui, de faire dialoguer des textes venant de traditions totalement différentes, venant d'Inde, venant de Rome, venant de Scandinavie, hein, venant de Perse. Vous voyez, il ne s'agissait pas, là, comme dans l'œuvre de Platon, de faire dialoguer des personnages entre eux, mais il s'est agi de faire dialoguer, hein, des traditions différentes, des textes différents. Et c'est pour cela, moi, j'avais employé cette expression. J'avais lu un très beau livre sur Platon de Monique Dixot, qui s'appelait « Un naturel philosophe ». C'est un livre remarquable, hein. C'est compliqué, mais un très beau livre. Et je pense que tout comme Socrate, était un naturel philosophe, et Platon aussi, Dumézil était un naturel comparatiste. Il comparait spontanément. Il y a un petit texte où il montre que dès l'âge de 8 ans, hein, on lui avait donné un texte sur Héraclès ou Prométhée, et tout de suite il s'est mis à comparer Héraclès à des héros de la mythologie germanique. Vous voyez, c'était spontanément que les comparaisons lui venaient, et des comparaisons qui ne s'imposaient pas immédiatement à l'esprit. Hein. Donc c'est un naturel comparatiste qui a cherché à établir des rapprochements donc, entre des mythes de traditions différentes. Et ce que l'on peut dire aussi, et je pourrais le souligner, c'est qu'il y a alors chez cet auteur un amour des vieux textes. Hein, un amour des vieux textes et des grands textes. Hein. Et là encore, je vais vous lire un passage. Alors, il y a un texte de Dumézil qu'il a consacré à un écrivain qui s'appelle Saxo Grammaticus. Bon, que personne ne connaît, qui a rédigé une saga scandinave, hein, au XIIe siècle de notre ère, la saga de Hadingus. Hein. Hadingus, c'est Hadingus. Et il rend hommage à ce Saxo Grammaticus, hein, et j'ai l'impression que quand il lui rend hommage, il fait un autoportrait. Hein. Alors voilà ce qu'il écrit. « S'il fait ici et là des faux sens sur les mots ou sur les choses, il a une qualité fondamentale. » Il aime ses vieux récits, ses vieilles erreurs religieuses, et ne risque pas de commettre le contresens majeur auquel n'échappent pas tant de philologues, nos contemporains, qui ne bronchent sur aucun mot du récit, mais n'en sentent pas l'esprit, n'en perçoivent pas la structure et la philosophie implicite. On pense à certains textes de Pascal, où Pascal, vous savez, le philosophe Pascal, dit qu'il ne faut pas interpréter, au fond, la Bible selon la lettre, hein, mais selon l'esprit. Et donc, interpréter les mythes, hein, c'est toujours, au fond, en rechercher le sens implicite. Hein, c'est ce qu'il a réussi à faire. Hein. Bon, voilà. Alors, dernier point que je voudrais souligner, hein, concernant la méthode que je vais essayer d'employer avec vous. Alors, c'est délicat un peu pour moi, hein, parce que c'est difficile. Je ne veux pas vous embarrasser avec un excès d'érudition. Et n'ayez crainte, je ne suis pas un érudit, je ne connais pas les langues, je ne connais pas le sanskrit. Mais l'érudition, ce ne serait pas la mienne, ce serait celle de l'auteur dont je parle. Hein. Donc je ne veux pas vous embarrasser avec un excès d'érudition. Mais en même temps, il faut bien donner des faits. Et surtout, et je vais essayer, alors c'est assez délicat, d'articuler donc une œuvre scientifique hein, avec une réflexion d'ordre philosophique. Hein. Et je vais essayer de le faire. Et d'ailleurs, je m'appuierai notamment sur deux grands philosophes qui sont, à mon avis, trop souvent oubliés aussi. Hein. Le premier, c'est un immense philosophe du XXe siècle, Ernst Cassirer. C-A-2-S-I-R-E-R. Vraiment Ernst Cassirer donc, qui a écrit lui aussi une suite de livres qui s'appelle les formes de la pensée symbolique. Oui, Cassirer. Donc voilà, je parle dans le micro hein, en mangeant les deux là à la fois. C-A-2-S-I-R-E-R. Si ça vous intéressait d'ailleurs, il a fait une synthèse de sa pensée Cassirer dans un petit livre qui s'appelle Essai sur l'homme. Et c'est une réflexion sur toutes les formes symboliques de la culture, hein, le langage, l'art, la religion, la mythologie, mais aussi la technique sur le travail. Et ce que Cassirer et de Musil ont en commun, pour ça d'ailleurs je crois qu'on les lit plus beaucoup, c'était de très grands érudits. Hein. Cassirer s'inscrit dans la tradition de la philosophie allemande très érudite. Hein. Vous voulez que je répète qu'est-ce que vous voulez que je répète, le nom ou l'œuvre? Le nom. Non, alors c'est A. 2-S-I-R-E-R. De rien. voilà. Oui, mais... Voilà. Je suis déjà assez maladroit avec ça. Alors, je veux bien aller au tableau, mais là, on va vers un film comique, Charlot. Voilà, je veux bien remarquer. Hein, je veux bien. Mais ce sera une autre chose, hein, parce qu'il y a de fortes chances que je me casse la figure sur l'estrade et tout ça. Donc voilà. Hein, mais bon, pourquoi pas. Hein, voilà. J'essaierai... Plus sérieusement, si vous voulez, donc j'essaierai d'articuler à la fois l'idéologie et la philosophie, alors notamment aujourd'hui. Donc ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, j'ai encore un peu de temps, dans la demi-heure qui me reste, je vais essayer de vous présenter, trop rapidement peut-être, donc l'idéologie trifonctionnelle, notamment à partir du tableau que je vous ai donné. Hein. Et puis la prochaine séance, je crois, enfin si ça, je vous parlerai plus précisément de la mythologie germanique. Parce que la mythologie germanique, Dumézil l'a étudiée, ça a posé un certain nombre de problèmes, et elle pose des problèmes historiques et philosophiques tout à fait intéressants. Puis dans les deux dernières séances qui resteront, hein, mais je verrai un peu en fonction aussi de ce que vous me dites, ou ne me dites pas, je ne sais pas, j'essaierai de vous parler des relations entre mythe et épopée, et notamment du rôle des héros. Hein, du rôle des héros, de la manière dont les héros régressent. Dumézil a montré que les grands héros de la mythologie commettaient tous des fautes. Hein. Il a écrit des livres sur les fautes, les péchés du guerrier, commettaient des fautes qui correspondaient aux trois fonctions. Et on peut voir comment cette régression, les fautes que commettent les héros, leur permet également de progresser. Hein. Je vous parlerai notamment d'un héros ossète que Dumézil aimait beaucoup, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelait Batraz. Et qui était l'équivalent, l'équivalent d'Achille, hein, enfin l'équivalent de nos héros grecs. Hein. Et puis je vous parlerai peut-être dans la dernière partie hein, des mythes de l'Inde. Hein, et j'essaierai de vous proposer une interprétation dialectique de ces mythes, voir comment on peut dialectiser en quelque sorte les trois fonctions, comment on peut les faire jouer entre elles. Parce que à partir du moment où il y a trois, il peut y avoir une relation dialectique. Et là, je m'appuierai sur l'œuvre alors, de cet immense ou ces philosophes qui est quand même connu, mais pas assez à mon avis, hein, Hegel. Hein, Hegel, donc, avec toute la dialectique hegelienne. Mais vous voulez... Voilà, j'ai un peu tardé, mais je viens de vous annoncer le deuxième. Le premier, c'était... mais tout arrive, hein. voilà. Le premier, c'était Hegel. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Hein? D'accord, voilà. Alors, donc, première partie, je vais peut-être un peu manquer de temps, mais ce n'est pas grave. À la limite, mes collègues, vous m'excuserez aussi avec le temps. Enfin, vous m'excuserez si vous voulez bien. J'avais prévu de parler 1h30 et mes collègues m'ont dit qu'il valait mieux parler plutôt 1h et que vous 1h ou 1h10 et vous laisser le temps de poser des questions. Je préfère faire ainsi. Hein. Si vous voulez, je préfère effectivement ne pas vous ennuyer et vous laisser la possibilité de répondre aux questions, ce qui sera plus vivant. Hein. Donc, voilà, j'ai fini l'introduction, si vous voulez, hein, et je voudrais développer donc la première partie qu'on peut intituler hein, l'idéologie tripartie. L'idéologie tripartie. Alors, vous allez me dire que je commets peut-être une faute d'orthographe. Non, je reprends l'expression de Dumézil, l'idéologie tripartie, T-R-I-P-A-R-T-I-E. Il est évident qu'on aurait pu dire tripartite, il a toujours écrit tripartie. Hein. Bon, je reprends donc... Voilà l'usage qui était le sien. Hein. Donc l'idéologie tripartie. Et je vais développer donc 5 points, peut-être en allant très vite. Hein. Enfin, pas trop vite en même temps. L'œuvre de Georges Dumézil s'ordonne autour d'une découverte centrale. L'idéologie tripartie qui est caractéristique des peuples de langues indo-européennes et d'eux seuls. Hein. Les autres peuples ne sont pas concernés. Hein. Donc, Dumézil a remarqué donc que l'idéologie de ces peuples-là hein, reposait sur 3 fonctions principales. La souveraineté magique et juridique, qui est la première fonction. Hein, la vigueur guerrière. La vigueur guerrière, donc tout ce qui est lié à la force, au combat, hein, je vous ai marqué. Et la troisième fonction, c'est la force productive. Donc tout ce qui est à l'origine de l'économie et la fécondité. Hein. Bon. Alors, il a... voyez, alors je vous cite un passage qui est très clair, hein, qui est tiré d'un... S'il y en a parmi vous qui s'intéressent à l'histoire de Rome, un livre qui s'appelle... Alors c'est un gros livre, hein, il fait 400 ou 500 pages, qui s'appelle « La religion romaine archaïque ». Hein, religion romaine archaïque qui est encore utilisée par les historiens. Et dans ce livre, il résume sa découverte, si vous voulez. Donc je vous lis le passage. Hein. Voilà, il résume ainsi l'idéologie des 3 fonctions. Les principaux éléments et rouages du monde et de la société y sont répartis en 3 domaines harmonieusement ajustés qui sont en ordre décroissant de dignité. La souveraineté avec ses aspects magiques et juridiques est une sorte d'expression maximale du sacré. Ça, c'est la première fonction. Ensuite, la force physique et la vaillance, dont la manifestation la plus voyante est la guerre victorieuse. C'est la deuxième. Et troisième fonction, la fécondité et la prospérité. Prospérité économique. Alors... première remarque que je voudrais faire donc dans cette première partie, je vous ai dit l'idéologie tripartie, donc la première remarque concerne la découverte de l'idéologie tripartie, et c'est peut-être là que la feuille nous sera utile, hein, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Dumézil alors, retrace les principales étapes de son développement hein, dans la préface de Mythes et épopées, et il montre donc que c'est en octobre 1937 hein, qu'il a eu l'idée donc, d'une idéologie tripartie, hein, d'une petite découverte, dit-il, qui ouvrait des perspectives nouvelles sur la dynamique de l'esprit humain. Alors, je ne vais pas tout reprendre parce que ce serait très long, mais je voudrais simplement souligner donc, que cette découverte, il ne l'a faite qu'à 39 ans. Hein. Ça veut dire que pendant 20 ans, il s'est trompé. Et qu'il a commis des erreurs de jeunesse. Hein. Et donc, il y a eu des erreurs de jeunesse, une période de jeunesse. Il y a eu, à un moment donné, ce qu'il appelle une petite intuition en 1937. Hein, donc, je voulais décrire simplement ça. Alors, en quoi concerne l'erreur de jeunesse hein, la période de jeunesse, elle s'étend de la jeunesse, elle s'étend de 1920 à 1937. Pour dire les choses en gros, hein, Dumézil reprenait à ce moment-là les méthodes de l'ancienne mythologie comparée. Hein, qui consistait à établir des rapports souvent audacieux hein, entre des noms de divinités qui pouvaient être plus ou moins apparentés. C'était vraiment du bricolage, et du bricolage parfois un peu téméraire. Hein. Et comme il était jeune, il s'est laissé aller à certaines facilités de ce point de vue-là. Alors, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il était dans une impasse. Hein. Alors, impasse que l'on pourrait décrire, alors avec une... Je me permets de vous citer, là aussi, un vieux philosophe, hein, moi, dont j'aimais beaucoup l'apparence, Gaston Bachelard. Hein. B-A-C-H-E-L-A-R-D, vous savez... Cet homme qui avait l'apparence d'un clochard, hein, qui demandait à son épouse de lui donner son costume pour aller raconter des bêtises à la Sorbonne. Hein. Bon, voilà. Mais des bêtises vraiment très intelligentes, quoi. Hein. Et Bachelard écrivait... Parce que, bon, ben, bref. Voilà ce qu'il écrivait, Bachelard. « Quand il se présente à la culture scientifique, l'esprit n'est jamais assez jeune. Il est même très vieux, car il a l'âge de ses préjugés. » Et il écrit ce que je trouve très magnifique, hein. « Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir, c'est accepter une mutation brusque qui doit contredire un passé. » Alors, il y a « Accéder à la science, c'est spirituellement rajeunir. » Alors, quand est-ce que Dumézil s'est décidé à rajeunir, hein? Eh bien, à l'âge de 39 ans, hein, donc en 1937, hein, il a fait une rencontre qui est déterminante. Il était dans une impasse, et chose assez étonnante, hein, comme il était dans une impasse, il est allé suivre des cours de chinois à l'école pratique de hautes études. Enfin, il a commencé en 1935. Donc, il était dans une petite salle de l'école pratique des hautes études qui est liée à la Sorbonne, hein, et il suivait des cours de chinois avec Marcel Granet. Et il paraît qu'il se faisait quasiment taper sur les doigts, hein, à 35, 36 ans, avec tous les diplômes qu'il avait, quand il commettait une erreur. Hein. C'était vraiment l'enseignement à l'ancienne. Et il écrit, là, voilà, je cite encore, hein, il écrit « Une sorte de métamorphose ou de maturation s'est opérée. Pendant 3 ans, j'ai écouté, regardé ce grand esprit extraire avec autant de délicatesse et de respect que d'énergie la substance conceptuelle des textes au premier abord insignifiant, voire insipide. » Vous voyez, donc la méthode de Granet consistait à dégager la substance conceptuelle des textes. Hein, il ne s'agissait plus de faire des rapprochements hasardeux entre le nom des dieux, mais de dégager la mentalité d'un peuple. Hein. Et Granet appliquait ça à la pensée chinoise. D'ailleurs, je suis allé dans une librairie cet après-midi, et on trouve le petit livre de Marcel Granet, qui s'intitule, je crois, « La pensée chinoise », en livre de poche, hein, avec une préface de Georges Dumézil. Alors, Dumézil découvre donc à 35 ans passés, hein, ce que doit être une explication de texte. Vous savez, il ne faut jamais être trop désespéré. Hein. Et on voit à quel point c'est difficile. On demande à nos élèves en terminale de faire des explications de texte. Vous voyez, ce génie-là, à 35 ans passés, il a fallu qu'il attendît 35 ans, hein, pour savoir en faire une. Hein. Et donc, il découvre une méthode d'explication de texte qui vise à extraire l'idéologie. Hein, l'armature conceptuelle dans la langue et le véhicule. Alors, en 1937, donc, Dumézil a sa petite intuition, ce qu'il appelle sa petite intuition. Alors, en quoi consiste cette intuition? Elle consiste à rapprocher... Alors, c'est là où le tableau là peut vraiment vous être utile, si je puis me permettre, hein, le tableau que je vous ai proposé. Elle consiste à rapprocher les 3 classes sociales de l'Inde. Alors, je les ai mises, là. Les 3 classes sociales de l'Inde, ce sont... les brahmanes, les prêtres, ils apparaissent dans la 3e colonne, hein, les dieux et les classes sociales de l'Inde. Donc les 3 classes, ce sont les brahmanes, hein, qui sont la première fonction, les guerriers, je ne sais pas exactement la prononciation du nom, donc je ne vais pas m'y aventurer, hein. La 2e classe, ce sont les guerriers, et la 3e classe, hein, les vaishyas, donc les artisans et les agriculteurs, hein. Donc il y a ces 3 classes, puisque l'Inde est une société hiérarchisée en castes. Hein. Bon. Alors, bon, ça c'était connu évidemment, tout le monde le connaissait. Alors il va établir une analogie entre ces 3 classes sociales de l'Inde et les prêtres de Rome. Hein, et les prêtres de Rome, alors puisqu'il y avait à Rome... Alors, il y avait les prêtres qu'on appelait les flamines. Il y avait 15 flamines, et donc qui étaient les prêtres consacrés à une divinité. Hein. Et il y avait 3 prêtres majeurs consacrés. Le premier était consacré au culte de Jupiter, une première fonction. Le deuxième était consacré au culte de Mars. Et le troisième au culte de Quirinus. Hein. Alors... ce que Dumézil constate, alors bien évidemment il y a des différences entre ces 2 structures, hein, mais il constate que ces 2 structures sont distribuées selon les mêmes fonctions, hein, l'administration du sacré, la vigueur guerrière et la prospérité, hein, et qu'elles traduisent la même idéologie commune aux peuples de langues indo-européennes. Donc, il découvre là, si vous voulez, donc à 39 ans, hein, l'intuition centrale sur laquelle il pourra travailler ensuite 50 ans quasiment, ou 40 ou 50 ans. Hein. C'est vraiment l'intuition centrale. C'est une petite anecdote que je me permets de vous signaler. J'ai découvert la première fois l'œuvre de Dumézil quand j'avais 19 ans, je crois, 19 ans ou 20 ans. J'étais à Paris, puis vous savez, quand on est en ville, on va voir les libraires. Hein. Et puis j'ai trouvé chez un libraire ou chez un éditeur la présentation, chez Gallimard, la présentation des trois livres de mythes et épopées. J'ai lu ça en prenant le métro, et ça a été une illumination pour moi. Hein. Alors après, j'ai oublié, mais je me suis dit, mais c'est absolument génial cette affaire-là. Hein. Mais vraiment génial, pas vraiment. Hein. Là, c'était pas. Et puis après, j'avais d'autres chats à fouetter, il y avait d'autres chats à faire. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo. Enfin, c'est juste une anecdote. J'ai jamais pensé que j'aurais jamais travaillé sur Georges Dumézil, mais je l'ai fait une fois. À un moment donné dans la carrière, j'ai été nommé à un endroit qui s'appelait Mortain. Je venais d'Angers, puis je n'ai pas pu rester à Angers, qui était une très belle ville où la philosophie était vivante. D'ailleurs, il y avait des cours de philosophie, hein, comme ça, qui étaient donnés, ouverts au public, quoi. Et j'ai été nommé dans un endroit qui s'appelle Mortain, qui était mortel. Hein. Bon, vraiment, les lacaniens n'ont pas tort. Hein, bon, bref, il était vraiment mortel, cet endroit-là. Et donc, pour ne pas mourir, il faut bien réagir. Hein. Et l'été, j'avais vu à la télévision un entretien de Georges Dumézil, vous savez, un de ses vieux entretiens avec Pierre Dumayet. J'avais repassé ces entretiens magnifiques avec Pierre Dumayet, où les gens avaient une heure pour s'exprimer, où l'écoute était bienveillante. C'est pas du tout maintenant, au bout de deux minutes, on vous coupe la parole, et puis c'est la foire d'empoigne. Hein. On avait vraiment le temps. Le temps de penser, le temps d'écouter quelqu'un. Et alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, comme je m'ennuyais à Mortain, et j'avais écouté cette émission, et j'avais pris des notes, parce que je trouvais ça d'une rare intelligence. Hein. Et je lui ai écrit une lettre, quoi. Je lui ai écrit une lettre dans laquelle je dis ce que je pensais de son travail, et il m'a invité. Il m'a invité à le voir, et j'ai eu de la chance, parce que finalement, j'ai été invité. Il m'a invité, et il est mort un an et demi après, quoi. Donc, alors c'est pour ça aussi, d'ailleurs, je puis me permettre de vous dire ça. Je ne suis pas objectif dans ce que je vous dis, mais je crois que personne n'est objectif. Ça fait longtemps que j'ai renoncé à cette vieille lune-là. Hein. Je ne suis pas objectif, je ne suis sans doute pas assez critique. Hein. Mais si je ne suis pas assez critique, c'est parce que, voilà, j'ai connu cet homme-là. Et bon. Mais je ne me tracasse pas, il y en a d'autres qui se chargent d'être critiques à ma place. Hein. La démolition des génies, si j'ose dire, est un sport à la mode, hein, auquel je ne participe pas. Moi, je les aime trop, les génies. Hein. Je les aime trop. Ils m'apportent trop de choses. Hein. Bon, voilà. Ceci étant dit, je ne suis pas assez critique. J'en ai tout à fait conscience. Bon, mais peut-être, avec vos questions, vous pourrez être critique à ma place. Hein. Bon. Alors, Dumézil donc fait sa petite découverte. Vous voyez donc ce qu'il appelle sa petite découverte. Hein. Et il développe donc, sa thèse, voilà, il l'exprime ainsi. Hein. L'un des cadres les plus ordinaires et les plus impérieux de la pensée des Indo-Européens était une conception tripartie, trifonctionnelle de l'ensemble du réel. Alors le réel, c'est surtout pour l'Inde, puisque là, la tripartition concerne la société. Et plus encore de l'imaginaire. C'est-à-dire que cette conception tripartie concerne la réalité dans le cadre de l'Inde, mais pour les autres peuples, notamment pour les peuples de Perse et pour l'Inde, hein, elle concerne, pour la Grèce aussi, hein, elle concerne l'imaginaire, hein, dans tous les cas. Donc il va appeler ça, cette idéologie l'idéologie des trois fonctions. Hein. Donc cette idéologie des trois fonctions, c'est un fait social total, hein, que l'on retrouve, alors je vous cite les grands lieux imaginaires où on la retrouve, hein. On la retrouve dans l'Inde védique, les Védas sont les textes sacrés des Indiens, hein. On la retrouve en Iran, à travers notamment la théologie de Zoroastre, hein, et toute la structure des archanges, on la retrouve à Rome, à travers l'histoire des origines, hein, Romulus et Rémus, etc. On la retrouve aussi en Scandinavie, chez les mythes des vieux Scandinaves, et également dans les mythes germaniques qui seront repris avec génie. Dumézil l'aimait beaucoup par Wagner. Hein. Et on la retrouve alors aussi, et Dumézil travaillait à la fin de sa vie, dans la mythologie grecque. Et d'ailleurs, je me permets de vous signaler que ce travail a été repris par quelqu'un que je ne connais pas, j'aurais bien aimé le connaître. Hein. Je lui avais écrit, mais il ne m'a pas répondu, il avait d'autres chats à fouetter, sans doute. Hein. Mais quelqu'un qui, à mon avis, est le successeur de Dumézil, qui s'appelle Bernard Sergent. sergent comme un sergent, hein, qui est un très grand historien, qui a été à un moment le président de la Société de mythologie française, je ne sais pas si c'est encore le cas, et qui a écrit des ouvrages très érudits et très intelligents, hein, sur la pensée des Indo-Européens, Bernard Sergent. À mon avis, c'est son vrai successeur, hein, un très grand historien. Alors voilà, donc c'est le premier point, vous voyez, la découverte de l'idéologie tripartite. Bon, je vais être obligé d'aller beaucoup plus vite. Hein. Deuxième point quand même, parce que, puisqu'il s'agit de mythes, même à la limite, si je m'arrête là aujourd'hui, ce ne sera pas très grave. Hein. Deuxième point que je voudrais souligner, donc la découverte de l'idéologie tripartite est inséparable d'une méthode. Hein. Inséparable d'une méthode, tout comme chez Freud, la découverte de l'inconscient est inséparable d'une méthode qu'est la psychanalyse. Hein. Donc, elle est inséparable d'une méthode que Dumézil appelle la méthode comparative. Hein, la méthode comparative. Et je vais vous illustrer, essayer d'illustrer hein, cette méthode comparative à travers une histoire que je crois que l'on retrouve, l'histoire du borgne et du manchot. Et je crois d'ailleurs qu'on retrouverait dans les archives de l'INA, hein, une présentation de cette histoire du borgne et du manchot, mais elles doivent être dans les archives de l'INA. Alors, Dumézil montre que l'outil principal du spécialiste des mythes, hein, c'est le moyen comparatif, la méthode comparative. Hein. Et il montre que la méthode comparative ne se contente pas de dégager des analogies superficielles, mais qu'elle permette de découvrir des représentations. Et il prenait une image, hein, il dit cette méthode comparative se développe à trois niveaux. Hein. Au premier niveau, il y a la chair, ce qui est superficiel. Au second niveau, le squelette. Et au troisième niveau, le modèle conceptuel abstrait, hein, ce qu'on pourrait appeler la structure. Alors, je vais vous prendre un exemple pour illustrer ceci, hein, qui est donc cette analyse du borgne et du manchot. J'espère être clair. Hein. Alors, dans les débuts donc, de l'histoire de la République de Rome, hein, les Roms doivent livrer bataille contre les Étrusques. Hein, et les Étrusques sont conduits par le roi Porsena, P-O-R-S-E-2-N-A. Hein. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce récit, on voit qu'il y a deux héros romains qui se dégagent, qui sont tout à fait singuliers. Le premier, qui s'appelle Horatius, hein, est un personnage donc, qui se met sur le pont de bois qui donne accès à Rome, hein, et qui paralyse l'ennemi, en l'occurrence les Étrusques, par son regard terrible et menaçant. Hein. Donc, personnage qui, par la seule force d'un regard, empêche l'armée étrusque, hein, de rentrer dans Rome. Et voilà, premier personnage. Le second personnage s'appelle Mucius, M-U-C-I-U-S. Mucius, donc, Mucius est arrêté alors qu'il voulait tuer le roi étrusque, hein, Porsena, et il laisse son bras droit brûler pour garantir un serment. Vous avez deux personnages singuliers, hein, qui sauvent Rome par leur courage. Et ces deux personnages ont chacun un surnom qu'ils doivent à une singularité physique. Hein. Horatius est appelé le Cyclope parce qu'il est borgne. Hein, il est borgne. Et Mucius est appelé le Gaucher. Effectivement, le Gaucher parce qu'il n'a plus qu'un bras. Hein. Alors, bon, voilà un récit qu'on racontait aux enfants lorsqu'on voulait leur faire étudier l'histoire romaine. Alors, le génie de Dumézil, parce qu'à mon avis, il y a une forme vraiment de génie, consiste à rapprocher cette histoire de la mythologie scandinave. Parce que si on regarde la mythologie scandinave, alors c'est pour ça aussi que je vous ai donné cette feuille, parce qu'il y a les noms des dieux. Hein. Donc, dans la mythologie scandinave, il y a un dieu qui est borgne, c'est le dieu Odin, hein, qui est un dieu magicien, un dieu tout à fait inquiétant, hein, on en reparlera. Le dieu Odin est un dieu borgne, hein, et il y a un dieu qui est manchot, hein, c'est le dieu Tyr. Hein, donc les deux divinités de la première fonction, vous voyez, hein, donc Tyr est manchot et Odin est borgne. Hein. Bon, et alors, l'idée de Dumézil, ça va être de rapprocher ces deux structures, de rapprocher ces deux récits. qui apparemment n'ont aucun rapport. Hein. Et je me permets de vous signaler aussi l'audace qu'il fallait, parce que à cette époque-là, la mythologie grecque et romaine, si vous voulez, était quasiment sacrée. Hein. L'humanisme, c'était les humanités gréco-latines, et tout le reste, c'était les barbares. Hein. Donc, oser rapprocher les récits des barbares, des scandinaves, hein, de la mythologie romaine et grecque, c'était un courage, c'était une audace intellectuelle, et aussi quelque chose qui n'était pas bien vu, et pas bien vu du tout par les spécialistes de l'histoire romaine, qui le feront payer très cher d'ailleurs à Dumézil. Hein. Alors, Dumézil établit ce rapprochement, alors il dit donc, voilà, si on rapproche donc du borgne romain, un autre borgne qui est le dieu Odin, hein, et si on rapproche du manchot romain Mucius un autre borgne qui est le dieu Tyr, on aboutit à une structure. Alors, il se permet en plus de faire ce rapprochement, je prolonge un peu le récit de la mythologie, hein, notamment de la mythologie scandinave. Dans la mythologie scandinave, hein, Tyr a perdu sa main droite en la laissant dans la gueule d'un loup, le loup Fenrir, hein, afin de garantir un serment également. Et c'était la même. Hein. Et grâce à ce sacrifice de sa main droite, hein, le loup dont une prophétie annonçait qu'il serait la perte des dieux est immobilisé jusqu'à la fin des temps par des liens magiques. Hein. Donc le sacrifice de Tyr, hein, sert à protéger les dieux. Quant à Odin, hein, il a perdu aussi son œil de manière volontaire. Il a déposé son œil dans une source pour acquérir en échange la vue de l'invisible et le savoir qui l'accompagne. En gros, il a perdu son œil visible, hein, pour devenir un prophète et un magicien. Oui. Il s'agit alors de ce que Dumézil appelle une mutilation paradoxalement qualifiante. Hein. Bon, donc on voit que ces deux récits ont une analogie. Donc, que va faire Dumézil, hein? Il ne va pas s'attarder aux détails du récit, hein? Mais il va s'attarder à la structure, et il montre que il y a ce que l'on peut. La structure consiste à faire correspondre une série, hein, c'est-à-dire un manchot et un borgne. Et il va dégager à ce moment-là un schéma abstrait, hein, qui apparaît dans la première fonction. Ce schéma, c'est le suivant. Hein, c'est que la première fonction, la fonction de souveraineté, est une fonction qui a, j'allais dire, deux visages. Hein, vous voyez, la première fonction est une fonction qui a deux visages contradictoires. La première fonction est bipartie, si vous voulez. Hein. Elle est bipartie. Alors, je cite Dumézil, hein, cette conception bipartie de l'action souveraine s'exprime par un double symbole. Le personnage qui triomphe par le prestige ou l'action magique n'a qu'un œil, il est borgne. Et le personnage qui triomphe par un artifice juridique, un serment, un gage de vérité, perd dans cette entreprise sa main droite et devient manchot. Hein. Donc, vous voyez la comparaison entre deux récits différents, hein, le premier qui vient de Tite-Live, de l'histoire romaine, et le second qui vient de Snorri, hein, quelqu'un qui racontait les textes, les légendes scandinaves. Hein. Le rapprochement entre ces deux types de récits permet d'établir une structure qui est immuable et qui montre que la première fonction est une fonction bipartie. D'ailleurs, c'est juste une petite parenthèse et simplement une idée que j'ai, mais bon, c'est une idée qui vraiment mériterait d'être approfondie. Mais quand on regarde la constitution de la Ve République, elle est tout à fait étrange. Hein. On a une conception un peu bipartie. Il y a un président de la République qui, par bien des côtés, alors moi je pense surtout au général de Gaulle, était un magicien. Hein. Le général de Gaulle gouvernait par le verbe. Alors, en 68, le verbe ne gouvernait plus, mais auparavant, il avait gouverné par le verbe. Il y avait une fonction magicien, un peu prophétique chez le général de Gaulle. Hein. Et puis, le président, le premier ministre, au fond, incarnerait plutôt une fonction beaucoup plus juridique. Hein, beaucoup plus juridique. Et d'ailleurs, il y aurait une espèce de dualité, comme si la première fonction, la fonction souveraine, était nécessairement bipartie, et bipartie de manière dialectique. C'est-à-dire, on verra, j'essaierai de vous en parler dans la troisième séance, hein, il y aura un conflit entre ces deux fonctions, et un conflit très, très violent. Hein. Donc, voilà. Alors, peut-être, est-ce que je peux encore 5-10 minutes et je vous laisse la parole, hein, parce que je ne veux pas vous ennuyer. Alors, troisième remarque que je voudrais souligner, qui est importante, hein, et qui justifie finalement que je vous parle de Dumézil dans le cadre d'ateliers de philosophie. La philosophie, c'est lié à la pensée. Donc la troisième remarque que je voudrais souligner, c'est que ces structures qui gouvernent la mythologie des peuples de langues indo-européennes, hein, sont un système de pensée. C'est-à-dire qu'il y a bien là une pensée. Alors, il n'y a pas de philosophie, hein. Il ne faut pas attribuer de la philosophie à des peuples qui vivaient il y a 3000 ans et qui n'avaient pas cet esprit-là. Alors, encore qu'on retrouvera cette philosophie-là dans l'œuvre de Platon. On retrouve dans plusieurs passages dans l'œuvre de Platon ce système tripartite, par exemple dans la conception qu'a Platon de la justice, dans la conception que Platon a de l'État. Hein, Platon reprendra d'un point de vue philosophique cette structure tripartite, avec une idée d'une hiérarchie et d'une harmonie des fonctions. Mais bon, alors, il y a bien un système de pensée. Alors d'ailleurs, je peux dire aussi un mot. Hein. Donc Dumézil, quand il cherchait le mot juste, hein, pour exprimer ce système de pensée, alors en 1924, il a employé le mot « cycle ». Et puis il a trouvé ça pas très heureux. Et il l'a remplacé ensuite par un mot qui était peut-être le plus heureux, qui était le mot de « système ». Peut-être aurait-il dû se contenter de ce mot de système, parce que cela aurait évité toutes les polémiques qu'il y a eu dans les années 70 autour de ce qu'on appelait le structuralisme. Et alors, petite anecdote, puisque nous sommes à Rennes, Dumézil avait parmi ses auditeurs à l'école pratique de hautes études un certain Victor Goldschmidt, qui a été un très grand professeur de philosophie à Rennes. Moi, je sais qu'il a été le professeur de philosophie d'André Sanguenec, qui m'a permis de faire ma thèse, et qui a été un très grand professeur à Nantes. Hein. Et c'est Goldschmidt qui lui a proposé d'employer le terme de structure. Parce qu'à la même époque, d'ailleurs, Goldschmidt a écrit un livre sur une approche structuraliste de l'œuvre de Platon. Hein. Bon. Et donc, il a employé le terme de structure, et il l'a un peu regretté après Dumézil, parce que ça a engendré des tas de polémiques dont il s'est bien passé. Puis, ce n'était pas un théoricien. Ça ne l'intéressait pas trop, toutes ces polémiques théoriciennes. C'était un historien qui cherchait à établir des faits linguistiques, des faits idéologiques. Hein, mais idéologiques au sens fort du terme, pas au sens péjoratif du terme. Hein. Alors, Dumézil va employer ce mot « structure ». Alors, tenez, je me permets de vous donner la définition, d'ailleurs. Hein. Quand il emploie le mot « structure », voilà, au sens où il l'emploie, hein. La structure désigne la représentation cohérente que les peuples de langue indo-européenne se font de la réalité. Une définition très simple. Hein. On est loin des discussions byzantines. Hein. Et, donc c'est la représentation cohérente, hein, que les peuples de langue indo-européenne se font de la réalité sociale et aussi de l'imaginaire. Hein. Donc c'est quelque chose de très simple. En gros, qu'est-ce que c'est qu'une structure ? Une structure, c'est un ensemble de données telles que chacune d'entre elles se définit par la place qu'elle occupe relativement aux autres. Hein. Dumézil a essayé de montrer, par exemple, qu'on ne peut pas expliquer un dieu par lui-même. On ne peut expliquer un dieu que dans la mesure où on voit la place qu'il occupe par rapport à d'autres dieux. Hein. Vous voyez, donc la structure désigne cet ensemble, hein, de données relatives les unes aux autres. Hein. Alors, il y a une question quand même qu'on peut poser. Je me permets, puis peut-être je m'arrêterai là, hein, pour ne pas vous embêter. Une question quand même tout à fait importante. Hein. Les peuples de langues indo-européennes qui ont commencé, alors pour certains d'entre eux, cela nous renvoie à 3000 années avant notre ère. Hein. Donc ces peuples de langues indo-européennes étaient-ils capables de concevoir un tel système de pensée ? Hein, était-il capable de concevoir un tel système de pensée ? Et ça nous renvoie, je crois, à une vraie question philosophique, là. Hein. Des peuples de mentalité archaïque possédaient-ils assez de puissance abstraite pour concevoir ce schéma de l'idéologie tripartite ? Hein. Parce que les adversaires de Dumézil auront beau jeu de dire, ce ne sont pas ces peuples qui ont conçu ce schéma-là, c'est vous, en tant que savant, entre guillemets, avez projeté sur ces peuples un schéma qu'ils étaient incapables de concevoir. Avec cette idée, au fond, que nos ancêtres, ces peuples archaïques, n'avaient pas une pensée suffisamment structurée pour concevoir une pareille idéologie. Alors, à ceci, je crois qu'on peut apporter vraiment une réponse claire. En tout cas, c'est celle qu'apporte Dumézil. C'est celle qu'apportera aussi Claude Lévi-Strauss, de son côté. Et les deux hommes qui avaient beaucoup d'estime l'un pour l'autre, qui se sont entraidés dans leur carrière. C'est Georges Dumézil qui a fait rentrer Claude Lévi-Strauss, je crois, au Collège de France ou à l'École pratique des hautes études. Il était en rivalité avec un autre et il m'avait dit ça. Dumézil était très fier de son expression. Il avait ardemment défendu Claude Lévi-Strauss, et il disait de l'autre, l'autre, il disait, il est bien gentil, mais il n'a pas la mâchoire intellectuelle qu'a Claude Lévi-Strauss. J'étais très content de cette expression, qui est une belle expression. C'est vrai que l'idée d'une mâchoire intellectuelle suffisamment puissante pour analyser les mythes. Donc, je reprends un peu mon idée, vous voyez, donc, pour Dumézil, donc, les premiers peuples, les premiers Romains notamment, les premiers Romains, mais aussi les premiers Scandinaves, étaient capables d'une pensée logique. Ils étaient capables d'une pensée logique. Et chose aussi tout à fait intéressante, selon Georges Dumézil, les Romains notamment, lorsque les Romains ont transposé la mythologie des Indo-Européens en histoire des origines, vous en direz peut-être un mot, ils l'ont fait, selon Dumézil, pleinement consciemment. Alors, on pourrait d'ailleurs là faire une remarque. Hegel, dans l'esthétique, lorsqu'il aborde les peuples primitifs, parle d'un symbolisme inconscient. Il dit notamment des peuples égyptiens, qu'ils étaient des artisans, qu'ils développaient un symbolisme inconscient, par opposition aux Grecs, qui eux, bien évidemment, penseront consciemment. Et là, quand on étudie Dumézil, d'ailleurs d'autres spécialistes des mythes, on ne peut que contredire Hegel. Le symbolisme était utilisé consciemment par ces peuples, qui avaient finalement des structures logiques et une pensée abstraite aussi puissante que la nôtre. Alors, les Romains, notamment, ont pu établir un système de pensée cohérent et ordonné. Et ce que nous affirme Dumézil, que reprendra Claude Lévi-Strauss, c'est que d'une manière générale, aussi primitif que soit l'homme, du moment qu'il pense, il pense par système. Et la pensée de l'homme, la première pensée de l'homme, est une pensée systématique. Et ceci à quelques niveaux de civilisation qu'on le prenne. Et notamment, alors, toute religion, comme toute manifestation de la pensée, est un système cohérent. Les religions, nous dit Dumézil, ce sont des ensembles où les concepts, les images des mythes et les actions des rituels, s'articulent harmonieusement les uns aux autres. De là, alors, de cette conviction, découle une règle fondamentale de la mythologie comparée. Il s'agira d'étudier donc chaque figure divine, chaque concept religieux, à partir des rapports qu'ils entretiennent entre eux. Donc, on ne va pas étudier un dieu séparément, on ne peut pas écrire un livre sur Jupiter. On ne peut comprendre Jupiter que dans son opposition à Mars et à Quirinus. On ne peut comprendre Odin et Thor que par son opposition à Thor. En d'autres termes, on ne peut pas comprendre un dieu, on ne peut étudier qu'une mythologie, qu'un ensemble. Donc, la plus sûre différentielle d'un dieu, mais aussi d'un héros, on verra, ou d'un roi, est toujours différentielle. On ne peut définir les héros, les dieux ou les rois que par différence. Donc, ce que Dumézil a toujours défendu, il a toujours défendu cette idée selon laquelle les premiers Indo-Européens avaient une pensée structurée. Et cette affirmation a été confortée par l'anthropologie culturelle, notamment par Claude Lévi-Strauss. Alors, je connais moins bien Claude Lévi-Strauss, il y en a sûrement parmi vous qui le connaissez bien. Puis on en parle de Claude Lévi-Strauss, à juste titre d'ailleurs. Il faut en profiter parce que peut-être dans 20 ans, on n'en parlera plus. Donc il faut profiter actuellement. Et Claude Lévi-Strauss a montré que les aborigènes australien, par exemple, hein, avaient décrit des classifications familiales avec une très grande cohérence. Ils avaient décrit leurs systèmes familiaux avec une très grande cohérence, où il a montré alors que les Indiens, Kayapo, hein, K-A-Y-A-P-O, des Indiens qui sont menacés, je crois, qui sont menacés très concrètement de disparition actuellement, que ces Indiens Kayapo avaient un savoir botanique, un savoir dans les plantes qui était parfaitement structuré et parfaitement organisé. Hein. Donc, on peut admettre hein, que les Indo-Européens avaient la capacité d'établir un système à trois termes. Ils avaient la capacité d'établir un système à trois termes. Bon, voilà, j'avais bien d'autres choses à vous dire, notamment sur les structures de l'idéologie tripartie, puis peut-être aussi sur la comparaison entre Claude Lévi-Strauss et Dumézil, mais je crois que c'est mieux de vous laisser la parole.